Une visite qualifiée d'historique hier. Yair Lapid donc a inauguré l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi. Bonjour Gérard Benhamou.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
On revient donc avec vous sur ce voyage extrêmement important, extrêmement symbolique.
Oui, alors il faut dire que les Israéliens ne semblent pas véritablement percevoir la portée des événements qui se déroulent à Abu Dhabi et au Bahreïn actuellement. Les propos chaleureux échangés entre Yair Lapid, les équipes et les personnalités qui l'accueillent sur place n'ont que très peu franchi les titres des médias israéliens ce matin. En tout cas, la presse a choisi de s'inquiéter plutôt d'une autre réalité très concrète et déterminante, celle de la situation économique d'Israël, conséquence du passage insistant des Covid. Israël vit actuellement dans une sorte d'entre-deux, la fin espérée du Covid qui n'en est pas véritablement une, les premiers jours d'un gouvernement qui fait des efforts pour s'imposer, bien qu'il soit fragile structurellement, et pour certains même les vacances espérées ou les visites à l'étranger peut-être compromises en raison des incertitudes liées chaque jour à de nouvelles règles à observer pour les entrées et sorties du pays et les zones rouges interdites. Il serait donc nécessaire de s'attarder avec nos invités sur le sens véritable que prennent ces accords avec les Émirats arabes unis pour créer une nouvelle réalité au Moyen-Orient. Les événements marquants sur place ne manquent pas. Ainsi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a signé hier un accord de coopération économique et commerciale historique avec son homologue émirati, le cher Abdallah Ben Zayed Al Nahyan. Lors d'une visite officielle inédite d'un ministre de l'État d'Israël aux Émirats arabes unis depuis la normalisation des relations entre les deux nations l'an passé. L'accord a été signé au cours d'une cérémonie officielle au ministère des Affaires étrangères à Abu Dhabi, à l'issue d'une réunion entre les deux responsables gouvernementaux. Le traité stipule que les gouvernements s'engagent notamment à développer la libre circulation des biens et des services, les échanges d'experts et de délégations et à encourager les collaborations avec le secteur privé. Le contenu émotionnel n'était pas non plus absent. « La paix est un choix et nous l'avons choisi ensemble », a affirmé Yair Lapid. Israël et les Émirats arabes unis s'engagent donc sur la voie de la paix au profit de nos nations et de toute la région, a par ailleurs inscrit le ministre israélien dans le livre d'or à son arrivée au ministère. Le chef de la diplomatie israélienne se rend aujourd'hui à Dubaï pour les ouvertures officielles du consulat d'Israël ainsi que du pavillon israélien à l'exposition universelle qui se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. De nombreuses interrogations circulent parmi le public israélien et même au-delà sur la scène internationale. Nous allons tenter d'y répondre avec nos invités, Avi Pazner, diplomate et notamment ancien ambassadeur d'Israël en France, et Meir Masri, docteur en géopolitique et maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonjour Avi Pazner, bonjour Meir Masri.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Je vais commencer. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Avi Pazner, je vais commencer avec vous. Ce n'est pas exagéré de parler de moments historiques.
Pas du tout exagéré. Même si, comme l'a dit Gérard Benhamou tout à l'heure, cela n'a pas fait peut-être les grands titres parce qu'on est préoccupé par d'autres choses, le Covid, la politique, etc. Mais c'est un moment historique où un ministre des Affaires étrangères israélien se rend dans un émirat qui était jusqu'il y a un an considéré pays ennemi et qui est reçu avec beaucoup de chaleur, avec toute la garniture officielle requise et qui vient de signer des accords de coopération qui vont certainement porter leurs fruits parce que vous savez que et les Israéliens et les gens des Émirats sont extrêmement intéressés à développer les relations économiques entre ces deux entités. Ce sont deux entités qui ont beaucoup à donner l'un à l'autre. Ce sont peut-être les entités économiques les plus importantes, après l'Arabie Saoudite, les plus importantes du Moyen-Orient. Et vous savez aussi le flot de touristes israéliens qui se rendaient aux Émirats. Maintenant, ça s'est un peu arrêté avec le Covid, car les Émirats sont considérés comme étant des États rouges, mais cela va reprendre. Donc, il y a vraiment des échanges qui n'ont pas, je peux dire, à la différence de nos traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie, qui sont restés des traités de paix très importants, mais qui étaient surtout des traités de paix entre gouvernements et où le peuple n'avait pas pris part. Là, c'est quelque chose d'autre, c'est des hommes d'affaires, c'est le tourisme, et je crois que nous avons ouvert une nouvelle page dans nos relations avec les pays arabes.
Meir Masri, qu'il y a-t-il dans ces accords justement qui ont été signés hier, dans le détail que contiennent, qu'est-ce que ces accords vont faire avancer entre les deux pays?
Alors d'abord bonjour, et désolé pour le bruit de fond, je me trouve à l'extérieur. Alors moi je voulais dire d'abord que ce qu'il y a d'historique dans cette visite du ministre Lapid, c'est justement que la visite ne fait pas la une des journaux et des médias moyen-orientaux et du monde arabe de manière encore plus générale. Ce qui signifie que la normalisation est en train d'être faite de façon véritable. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien même qui interpelle à ce qu'un ministre israélien se rende dans un pays, dans une capitale arabe pour inaugurer une ambassade. Ça semble être quelque chose de normal aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'inédit et que ça, c'est quelque chose d'historique. Alors, les accords, comme l'a dit Avi Pazner, vont d'abord, il y a un intérêt commun de la part de part et d'autre. Israël n'est pas plus intéressé que les pays du Golfe, comme c'était le cas par le passé, où c'était Israël qui courtisait les capitales arabes pour bien vouloir reconnaître l'État hébreu et bien vouloir avoir des relations diplomatiques avec lui. Nous voyons aujourd'hui que l'intérêt est réciproque, que les intérêts, de façon générale, sont forts de part et d'autre. Et ces accords portent sur des volets économiques, culturels, financiers. On a vu des accords en matière de coopération fiscale, de coopération douanière. Donc ce qui vraiment ouvre la voie à des échanges commerciaux, des échanges économiques entre les différentes capitales, entre Israël et plusieurs capitales du Golfe. C'est un cercle de la paix régionale qui ne cessera de s'élargir avec l'implication de plus en plus d'acteurs. Il y a aujourd'hui des pays qui n'ont pas encore normaliser leurs relations de façon officielle avec Israël, mais qui laissent par exemple l'aviation israélienne survoler leur territoire. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. Lapid est allé à Abu Dhabi après avoir survolé le territoire saoudien. Donc si vous voulez, c'est un climat général qui est nouveau, qui est inédit. Et ce qui est important ici, c'est l'aspect collégial. Ça veut dire que c'est un monde qui s'ouvre à Israël, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas un pays qui va être encore une fois condamné ou en tout cas critiqué par la communauté régionale, comme ce fut le cas de l'Égypte en 1979 qui a été excusé de la Ligue arabe pour avoir signé un traité de paix séparé avec Israël. Ce n'est pas le cas de la Jordanie en 1994 qui va être critiqué par les régimes baassistes et nationalistes de façon générale, que ce soit les régimes baassistes Syrie, Irak ou les régimes nationalistes comme l'Algérie par exemple. Et ce n'est pas la Mauritanie en 1999 qui, en normalisant ses relations avec Israël, a subi les foudres, y compris de la Ligue arabe. Aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Et ceux qui sont aujourd'hui critiqués, ceux qui sont aujourd'hui mis à l'écart, ce sont justement les adeptes du camp du refus et les alliés de l'Iran dans la région, en premier lieu le régime de Bachar el-Assad, dernière citadelle du panarabisme dans la région et qui est, signe des temps, expulsé de la Ligue arabe puisque son siège est vacant depuis déjà plusieurs années. Donc le contexte est nouveau et je pense qu'il y a de quoi être optimiste.
Gérard Benhamou.
Alors, je cite Yair Lapid, Meir Masri, « Les Émirats arabes unis pourraient jouer un rôle positif en Cisjordanie et à Gaza si les Palestiniens souhaitaient améliorer les relations avec Israël. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette petite phrase? Faut-il voir là la main américaine qui voudrait relancer des négociations israélo-palestiniennes et profiter en fait de ces accords pour le faire? Et c'était un peu, on s'en souvient, la version de Donald Trump.
La question est pour moi?
Oui, Meir Masri.
Oui.
Alors oui, il y a un intérêt américain, effectivement, pour que le processus de paix soit relancé. Et il n'y a là aucune contradiction. Il faut dire que ce sont deux processus qui doivent avancer, de mon point de vue, parallèlement. L'élargissement du cercle de la paix régionale, je pense qu'il ouvre la voie à un rapprochement israélo-palestinien, à un retour à la table des négociations. Seulement, pour cela, il faut que la partie palestinienne soit prête. Il faut qu'il y ait des élections palestiniennes, il faut que les Palestiniens parlent d'une seule voix, et il faut donc que les conditions soient réunies pour la relance du processus de paix. Mais il n'y a aucune volonté de la part ni d'Israël ni des pays du Golfe de contourner le processus de paix de mon point de vue. à travers ces accords de normalisation, mais aussi ce rapprochement économique qui accompagne cette normalisation. Donc de mon point de vue, ce sont deux processus qui ne convient pas de confondre, et chacun des deux soutient l'autre. Le processus de paix avec les Palestiniens, bien sûr qu'il aidera de mon point de vue, c'est incontestable, à l'élargissement encore plus du plan de la paix régionale, à la normalisation entre Israël et le monde arabe. Mais l'élargissement du plan de la paix aussi, du cercle de la paix aussi, et ces accords de normalisation également rendent moins difficile et favorisent le rapprochement entre Jérusalem et Ramallah. Et j'ai même envie d'ajouter une chose, si vous permettez, cher Gérard, c'est que je pense que ce rapprochement entre Israël et les pays arabes a aussi eu un effet très positif à l'intérieur d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence si un parti arabe a voulu faire partie de la coalition, voire même du gouvernement d'une certaine manière, en ayant un droit à un vice-ministre au sein du gouvernement actuel. Donc je pense que ce contexte favorise le rapprochement israélo-arabe, y compris même à l'intérieur d'Israël. Il n'y a donc aucune contradiction entre les deux processus, je dirais même entre les trois processus, si on considère que l'intégration des Arabes israéliens, en tout cas des partis arabes israéliens, au sein du spectre politique israélien, est un processus aussi important dans le cadre du rapprochement global entre Israël et le monde arabe.
Avi Pazner, on a l'impression que les planètes s'alignent quelque part, c'est-à-dire que le duo Netanyahou-Trump ont fait de la real politique et ont amené ces accords de paix avec des intérêts économiques, des intérêts militaires régionaux, et que finalement le duo Lapid-Biden va venir un petit peu arrondir tout cela et mettre un peu plus de diplomatie. On a ce sentiment que finalement l'enchaînement des deux, le fait que les deux se suivent est peut-être une bonne chose.
Vous parlez du duo Lapid-Biden, il faudrait plutôt parler du duo Bennett-Biden, parce que c'est Bennett qui est actuellement le premier ministre israélien, et je peux déjà ressentir à Washington, un climat chaleureux envers le nouveau gouvernement israélien. Hier, le président Rivlin a été reçu extrêmement amicalement par le président Biden. Ils se sont embrassés, ils se sont chuchotés à l'oreille. Le président Biden a dit qu'il allait inviter Bennett très prochainement à Washington. Donc, nous voyons ici que Washington a un intérêt de cultiver ce nouveau gouvernement israélien qui, comme vous le savez, n'est pas un gouvernement très fort ou très stable. Il a une majorité d'une voix. Il est composé de 8 partis, dont un parti arabe. C'est un gouvernement qu'il est difficile de manager. Mais je peux voir déjà qu'il est accueilli d'un très bon œil à Washington, et que Biden va faire tout son possible pour aider ce nouveau gouvernement. Et je crois que dans la mesure de ce possible, les États-Unis ne vont pas pousser maintenant à une négociation entre nous et les Palestiniens, parce que ce serait trop compliqué du point de vue politique et palestinien et israélien. Et ils vont se concentrer peut-être sur d'autres pays arabes qui pourraient être intéressés à faire la paix avec Israël. On a beaucoup parlé du Oman qui a maintenant disparu un peu du radar, mais qui pourrait y revenir, et il y en a d'autres encore. Donc je crois que pour les prochains mois, nous allons voir une attitude très positive de Washington à l'égard de Jérusalem, et c'est important aussi. Et il faut le mentionner, même si ce n'est pas le sujet du jour, ce sont les négociations sur l'accord iranien où Israël peut apporter ses vues et ses données aux États-Unis. Et c'est important parce que, comme vous dites tout à l'heure, la continuation d'une politique pro-israélienne de Trump, l'importance d'une politique pro-israélienne de Biden. Les États-Unis sont le plus grand ami d'Israël. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous avons beaucoup d'intérêts communs et nous avons été ravis de voir que les États-Unis continuent leur soutien à Israël, y compris dans le processus de rapprochement entre Israël et d'autres pays arabes.
Gérard Benamou, vous avez une dernière question pour Avi Pazner ?
Oui, alors Avi, très rapidement, on a évité de parler dans ce moment historique justement de Jérusalem, un sujet pourtant important. Quelles sont les attentes des pays du Golfe au sujet de Jérusalem ? Est-ce qu'on en sait quelque chose en Israël ?
Vous savez, c'est le sujet, Gérard, le plus épineux, le plus dur. Et je crois que, à part le fait qu'Israël veut donner pleine liberté de culte à toutes les religions, pour le moment, discuter du statut politique de Jérusalem serait une erreur. Car il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution immédiate. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est que vraiment toutes les religions, juives, musulmans, chrétiens, tous se sentent à Jérusalem en parfaite liberté de religieuse, et mettre pour le moment de côté les aspects politiques tellement épineux que nous n'avons pas pu résoudre en 120 ans de conflit avec nos voisins palestiniens. Et si les Émirats n'ont pas soulevé la question de Jérusalem, c'est qu'ils avaient des bonnes raisons de le faire, c'est qu'ils savaient parfaitement qu'en ce moment, le maximum que l'on puisse faire, c'est garantir sécurité et liberté de culte à Jérusalem et ne pas essayer d'aller au-delà.
Merci Avi Pazner, merci Meir Masri, merci à vous Gérard Benamou pour avoir organisé donc ce dossier.
Merci à vous
tous. Merci Rudy, merci Gérard.
Merci, au revoir. Merci.